BFM Business, midi, leur H. L'invité.
Ce pourrait être l'un des piliers de la reprise économique, l'engagement social et environnemental. Plusieurs entreprises du CAC 40 ont annoncé ces derniers jours leur intention d'inscrire ces objectifs dans leurs missions et leurs objectifs. Un virage vert également assumé par le gouvernement qui a présenté hier son plan de relance pour l'industrie automobile, marqué par une hausse des subventions, entre autres pour l'achat de véhicules électriques. Mathieu Orphelin, coprésident du groupe parlementaire Écologie, Démocratie et Solidarité, est en duplex avec nous. Bonjour. Vous avez été élu député en 2017 sous les couleurs de La République En Marche. Vous avez quitté le groupe en février en raison des avancées insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques et sociaux. Et vous avez participé à la création d'un nouveau groupe parlementaire avec une poignée d'élus marcheurs, 9e groupe baptisé donc Écologie, Démocratie et Solidarité. Est-ce que vous pensez également que la thématique environnementale et sociale peut être davantage porteuse après la crise sanitaire qu'on vient de traverser?
Bien sûr qu'il faut que l'écologie et la solidarité soient au cœur du plan de transformation de notre économie. C'est pas une option. C'est la seule solution pour arriver à concilier transformation de l'économie, intérêt de court terme et notamment la préservation de l'emploi avec tous ces grands enjeux écologiques, climatique, de lutte contre la perte de biodiversité, d'une solidarité retrouvée. C'est pas une option, ça doit être la clé du plan de transformation français comme du plan de transformation européen. Faut pas qu'on refasse la même erreur qu'en 2008, après la crise de 2008. La France avait été un des pays européens qui avait le moins concentré son plan de relance sur ces enjeux de transition. Moins de 20% des soutiens publics à l'époque avaient été consacrés à la lutte pour le climat, contre beaucoup plus dans d'autres pays comme l'Allemagne par exemple. Donc c'est la seule solution. Nous ne ferons pas de business dans un monde dévasté. Et je crois qu'effectivement c'est de la responsabilité du gouvernement, de l'ensemble des acteurs et en premier lieu des acteurs économiques, de mettre concrètement ces enjeux écologiques et sociaux au cœur de la transformation de notre économie. Pas simplement pour faire un greenwashing ou pour donner des bonnes intentions, mais pour changer concrètement notre modèle de développement économique.
Pour autant, est-ce que ça peut devenir un moteur de développement économique? On voit bien la prise de conscience, notamment au niveau de certaines entreprises, mais est-ce que la priorité des entreprises ne va pas d'abord à la survie, leur propre survie, après la crise qu'on vient de traverser?
Il faut arriver à faire les deux en même temps, c'est-à-dire sauver l'emploi, sauver les savoir-faire à court terme et dans le même temps transformer. C'est pour ça que nous avions poussé, nous poussons à l'Assemblée nationale avec le groupe Écologie, Solidarité, Démocratie, des contreparties fortes et claires au soutien de l'État. L'État va investir là des milliards d'euros dans le plan de sauvegarde et de transformation de l'industrie automobile. Il y a des bonnes mesures, il y en a d'autres qui posent beaucoup plus de questions. Mais maintenant, il faut que chaque soutien public de l'État pour préserver les emplois et les savoir-faire d'aujourd'hui donne lieu à des contreparties de la part notamment des grandes entreprises, comme ça a été fait hier par Renault sur les batteries électriques, sur un engagement renforcé dans la préservation des emplois, localisation des emplois en France et en Europe. Donc tous ces engagements-là, il faut qu'ils soient très concrets et que chaque soutien public de l'État, il y en a eu des massifs depuis le début de la crise, eh bien, soit maintenant assorti de conditions de transformation du modèle économique à court et à moyen terme. C'est important. C'est important qu'on sorte du modèle actuel de toujours consommer plus, voir la rentabilité à court terme. Vous parliez tout à l'heure dans votre flash info, annonçant comme une bonne nouvelle les 17% de hausse du cours de Renault ce matin. Ça pose question quand même sur les stratégies des investisseurs. Tant mieux que le cours remonte, mais j'espère que c'est pour montrer le soutien à la transformation du modèle de développement et de la stratégie industrielle de Renault, pour soutenir cette transition nouvelle que vont adopter, on l'espère, nos constructeurs automobiles. J'espère que les investisseurs arrivent enfin à mieux penser le moyen terme et simplement pas le gain à court terme que leur permet le trading haute fréquence ou tout des choses comme ça. Voilà, donc il faut qu'on arrive à remettre du sens dans notre économie, à remettre du sens dans notre finance, et ça passe par un nouveau modèle de développement économique beaucoup plus sobre, beaucoup plus sobre. Osons, y compris quand on est à la tête d'une grande entreprise, osons la sobriété.
Justement, sur le plan de soutien au secteur automobile, le gouvernement a annoncé des subventions plus élevées pour l'achat de véhicules électriques, mais il a aussi annoncé une ambition assez élevée pour la France en termes de production de véhicules électriques. Ça va dans le sens de votre engagement?
Oui, il y a des bonnes mesures dans le plan annoncé hier qui vont clairement dans le bon sens. Effectivement, par exemple, une sorte de super bonus sur l'achat de véhicules électriques, aussi sur les hybrides rechargeables. Donc effectivement, que pour les particuliers, on passe à un bonus de 7000 euros pour l'achat des véhicules électriques, c'est une bonne mesure. Ça va permettre d'être encore plus incitatif pour ceux qui vont acheter un véhicule neuf ou s'y mettre avec des locations longue durée ou autres, vont pouvoir s'orienter plus facilement avec ce coup de pouce vers les véhicules électriques, qui a beaucoup d'avantages, et notamment aussi pour ceux qui habitent en zone rurale. Donc on a des bonnes mesures comme ça, et puis on a des mesures qui posent plus questions quand on les regarde du point de vue écologique. La prime à la conversion me paraît trop étendue. Alors on a bien compris que c'était une sorte de prime pour écouler les modèles de surproduction, qui ont été en surproduction et qui n'ont pas été vendus au cours du mois et demi précédent. Mais là, ce bonus-là sur tout un tas de véhicules essence et diesel, on ne peut pas dire que cette mesure soit très lisible du point de vue de la transition écologique. Donc il y a des bonnes choses. Tant mieux qu'on pousse plus les véhicules électriques, hybrides rechargeables, demain l'hydrogène, ça c'est quelque chose d'important. Mais dans les prochains jours, on va continuer à faire des propositions. Par exemple, pour que les véhicules les plus lourds, et notamment les gros SUV, ne puissent pas bénéficier de beaucoup de soutien public. Parce que là aussi, moi j'ai quelques inquiétudes ou interrogations quand j'entends le patron de Renault, le patron de PSA dire qu'ils vont miser sur les véhicules sur lesquels aujourd'hui on a le plus de valeur ajoutée, et notamment les énormes véhicules qui parfois font plus de 2 tonnes pour transporter une ou deux personnes en ville. C'est pas ça le modèle de développement auquel on aspire pour demain dans l'industrie automobile. Oui, il y a des véhicules où on sort des énergies fossiles, mais des véhicules les plus légers possibles. On n'a pas besoin d'un véhicule de 2 tonnes pour transporter une ou deux personnes en ville.
On a bien compris vos aspirations. Le monde d'après sera plus écolo, selon vous. Est-ce qu'il sera également moins mondialisé, ce monde post-Covid? On a vu une certaine prise de conscience sur des enjeux sociétaux. Vous êtes opposé à la mondialisation. Vous êtes notamment opposé au CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. J'imagine que ça aussi, ça va dans le sens de votre engagement, un monde moins globalisé.
Moi, je ne dirais pas que je suis opposé à la mondialisation. Je suis opposé au libre-échange tel qu'il est aujourd'hui porté par un grand nombre de dirigeants internationaux, dont les dirigeants européens. D'ailleurs, la France a été plutôt volontariste en Europe pour essayer de changer et passer d'un modèle de libre-échange aujourd'hui complètement débridé, où on peut notamment, y compris sur les produits agricoles, échanger des produits agroalimentaires et alimentaires d'un bout à l'autre de la planète. On peut faire tout au prix de cette libre circulation. Moi, effectivement, ça, c'est pas mon modèle. Le modèle que je porte, que nous portons avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, c'est le modèle d'un juste échange. Effectivement, redonner du sens, mieux réguler ces échanges internationaux, arrêter de signer des accords avec des pays qui ne respectent pas les droits humains ou l'accord de Paris, les engagements pris dans la COP21 ou des engagements de lutte contre la biodiversité. Arrêter de signer n'importe quel accord, en particulier sur les produits agricoles. Je vous le dis, moi, je porte une pourquoi pas une exception pour les produits agricoles. Est-ce que les produits agricoles doivent être dans les accords de libre-échange? Je suis pas sûr. Je pense même le contraire. Je trouve ça pas normal qu'il n'y ait pas de droits de douane sur de la viande qui provient de l'autre bout du monde, alors que nous avons en France les meilleurs éleveurs du monde et des éleveurs qui, pour certains, n'arrivent pas à trouver la rentabilité économique. Donc je ne suis pas contre la mondialisation, je suis pour refonder complètement la mondialisation et aller vers des accords de juste échange.
La crise sanitaire a également retardé en France l'attribution des fréquences pour la 5G. Quel est votre sentiment sur ce dossier? On a souvent opposé écologie et justement un progrès économique. La 5G, si elle est mise en place, les écologistes nous disent que ça présente des dangers pour la santé, et pourtant ça permettrait de réduire notre empreinte carbone, par exemple avec moins de voyages.
Moi, vous savez, je vois ça d'une façon très concrète. Dans ma circonscription, en Anjou, la moitié des communes aujourd'hui n'ont pas la fibre. Dans la moitié des communes, on a des difficultés à pouvoir passer un appel de son téléphone portable. C'est ça la réalité, moi, aujourd'hui, d'un élu de terrain. C'est l'architecte qui, à 10 km d'Angers, peut pas envoyer ses plans à distance parce que il n'a tout simplement pas de réseau ou de fibre. C'est devenu aujourd'hui en Anjou pratiquement un choix important au moment de choisir une maison. Eh bien, c'est de savoir si on peut tout simplement passer un coup de fil avec son téléphone portable dans le jardin ou avoir une connexion internet suffisante. Voilà, pour moi, c'est ça les questions basiques aujourd'hui. Donc la question de la 5G n'est pas aujourd'hui pour moi la question prioritaire. C'est pas encore une fois une technologie de plus qui va nous sauver immédiatement. Moi, ce que je veux, c'est lutter contre les inégalités et les inégalités d'accès au débit numérique. Voilà ce qui fait ma priorité. Et c'est ça dont les gens me parlent sur le terrain en Anjou. C'est pas pour ou contre la 5G.
Merci beaucoup Mathieu Orphelin, co-président du groupe parlementaire Écologie, Démocratie et Solidarité. Merci d'avoir été en direct avec nous dans l'heure H aujourd'hui sur BFM Business.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
La filière de l'optique, secouée par la crise sanitaire, déjà en profonde mutation depuis quelques années, le secteur des opticiens redoute que la crise actuelle n'accélère cette transformation et aboutisse à des suppressions d'emplois. On va en parler avec Jean-Pierre Champion, PDG des Opticiens Chris. Bonjour, merci. Bonjour. D'être en plateau avec nous. D'abord, quelques repères. Chris, c'est un réseau de 1400 magasins en France, plus de 6000 opticiens et collaborateurs. L'optique en France, c'est un marché qui pèse près de 7 milliards d'euros par an et on le rappelle, beaucoup de Français, 40 millions, portent des lunettes. D'abord, un mot de la crise sanitaire. Quel a été l'impact de cette crise sur votre activité?
On l'estime sur l'ensemble de l'année à 30% de baisse de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire des pertes d'exploitation pour beaucoup de magasins.
Et est-ce que cet impact de la crise peut être compensé, peut être rattrapé sur la deuxième partie de l'année? On se dit qu'a priori, si on a besoin de lunettes pendant le confinement, mais qu'on ne peut pas les acheter, on en aura toujours besoin après.
On voit dans les 15 premiers jours un retour de la consommation. Les gens sont heureux de revenir dans les magasins, font même la queue. Nous constatons malgré tout une petite décroissance par rapport à l'an dernier, d'environ 8%. Donc il y aura un effet de rattrapage, mais le problème qui va se poser, c'est que les ophtalmologistes n'ont pas prescrit pendant 2 mois et ne peuvent pas prescrire autant qu'ils prescrivent normalement dans les mois qui vont venir.
Combien de temps il faudra, selon vous, pour revenir à la normale?
Nous estimons à 3 millions de prescriptions le retard, le déficit cumulé à la fin de l'année. Donc il faudra probablement 12 à 24 mois avant de rattraper ce retard de prescription.
Je le disais en introduction, le secteur de l'optique est en transformation depuis quelques années. On se rappelle en 2015, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait mis en place les contrats dits responsables pour les mutuelles, pour qu'elles ne remboursent plus qu'une paire de lunettes tous les 2 ans. En 2018, le gouvernement avait lancé le reste à charge zéro pour les frais d'optique, qui s'était notamment traduit par une forte pression sur les prix pour les opticiens. Est-ce que cette crise du coronavirus va, selon vous, accélérer cette transformation du monde de l'optique?
Écoutez, nous avions déjà pris, vous venez de le rappeler, 3 chocs de régulation successifs qui avaient déjà eu beaucoup d'impact sur notre industrie. Il est à prévoir que Il va s'opérer une sélection naturelle, surtout si cette année nous faisons moins 30% et si l'année prochaine nous n'arrivons pas à résorber encore une fois tout ce retard de prescription. Donc oui, ça va accélérer la fermeture d'un certain nombre de magasins.
Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ?
Alors, nous attendons, déjà le gouvernement a fait beaucoup de choses pour l'ensemble des entreprises, donc il ne s'agit pas de rajouter à la liste. Mais il y a une particularité dans notre secteur, encore une fois, c'est ce que je viens de vous préciser, c'est que les ophtalmologistes ne peuvent pas répondre à la demande de leurs patients, et par conséquent ce retard de 3 millions de prescriptions, je pense que le gouvernement a les moyens de faire en sorte que nous le résorbions plus vite, en donnant par exemple davantage de place à la télémédecine.
Un mot sur le nombre d'opticiens en France, 12 500 en 2017. Pour donner un ordre de grandeur, deux repères, il y a autant d'opticiens en France qu'il y en a aux États-Unis et à Paris, il y a autant d'opticiens que de boulangeries. Alors ça dépend si on considère uniquement les boulangers traditionnels. Le chiffre est en recul, cela dit, depuis 3 ans, avec environ 200 fermetures de boutiques chaque année. Mais il y a toujours beaucoup d'opticiens en France. Vous pensez qu'il y a trop d'acteurs sur le marché ?
C'est vrai qu'il y a plus d'opticiens qu'il n'y en a ramené à la population anglaise ou à la population allemande. Ceci dit, le territoire français a une certaine surface et dans beaucoup de régions qualifiées de déserts médicaux, on est bien content d'avoir des magasins d'optique ouverts. Je crois que c'est l'économie qui va faire que les magasins restent ouverts ou restent fermés. Et l'économie d'un magasin, ça dépend de la démographie du pays, la proportion de personnes qui portent des lunettes, la fréquence à laquelle ils les renouvellent, et évidemment le niveau de remboursement. Et le niveau de remboursement des équipements optiques, il dépend de ce que les Français investissent dans les cotisations mutuelles. Donc plus ils payent de cotisations mutuelles, et plus ils ont droit à des remboursements de lunettes.
Vous pensez qu'il y aura une concentration dans le secteur, concentration entre réseaux ou absorption de boutiques indépendantes par les réseaux, justement ?
Je ne sais pas qui absorbera qui, mais probablement qu'il y aura une sélection naturelle très forte, car quel secteur peut supporter 3 chocs de régulation successives en 5 ans qui se terminent par une crise économique de l'ampleur de celle que l'on va connaître ?
Alors, vous parlez des chocs de régulation, il y a tout de même des facteurs favorables à votre activité. D'abord, c'est le vieillissement de la population, aussi la forte augmentation de la myopie chez les jeunes, et ça, évidemment, ça représente pour vous des clients potentiels. Donc les perspectives ne sont pas complètement noires.
Effectivement, l'Europe, malheureusement, est en train de rattraper l'Asie sur le plan de la pandémie de myopie. Vous savez qu'en Asie, la population entre 16 et 25 ans est atteinte de myopie à des taux qui voisinent les 80%. L'Europe était fort heureusement jusqu'à présent en retard, mais elle est en train de rattraper ce retard, en particulier par l'usage des écrans et par le fait que nos enfants restent trop confinés en dehors de la période que nous venons de connaître.
Vous parliez des évolutions du secteur. Le reste à charge zéro, mis en place par le gouvernement, a favorisé l'émergence d'une offre discount, que ce soit celle des distributeurs comme Leclerc, par exemple, ou celle développée par des entrepreneurs comme Xavier Niel ou Marc Simoncini. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à cette offre low cost ?
Alors, le 100% santé, puisque c'est de cela dont vous voulez parler, a été lancé en début d'année. On en a déjà vu les effets. Le panier moyen a baissé de 5 ou 6%. Et ce forfait pèse à ce jour à peu près 10%. Il est prévu qu'il en pèse 15 à 20% à l'avenir. Il sera distribué dans tous les magasins de France. Par conséquent, ça n'est pas une bonne nouvelle pour les discounteurs, puisque tout magasin sera en mesure de proposer ses forfaits dits low cost.
Les mutuelles ont souvent été pointées du doigt. Elles proposaient avant des remboursements généreux pour les frais d'optique jusqu'en 2018. Est-ce que ces remboursements généreux n'ont pas conduit à des abus ? Par exemple, quand un client rentre chez un opticien et qu'il précise qu'il a droit à un budget de 500 euros, a priori, pourquoi l'opticien lui proposerait un équipement à 200 euros ?
D'abord, je conteste le qualificatif de généreux. Les remboursements sont à la hauteur des cotisations que payent les Français. Je ne sache pas que les mutuelles soient en déficit. Elles ont tout un rapport sinistre à prime satisfaisant pour leur compte. Par conséquent, elles ne remboursent encore une fois qu'à hauteur de ce que les Français veulent bien consacrer de budget à leur mutuelle.
Alors le prix des lunettes quand même en France est plus élevé qu'ailleurs. J'ai longtemps habité en Grande-Bretagne où les lunettes sont peu ou pas remboursées et elles sont beaucoup moins chères qu'en France. Alors est-ce que notre système, je vais répéter le terme, mais généreux, ne conduit pas à une inflation des tarifs ?
L'Angleterre n'a pratiquement pas de remboursement de lunettes.
Je vous le confirme.
Bien. et la prescription médicale se fait dans le magasin directement.
Et je vous le confirme également.
Se sont développés dans deux pays d'Europe, dans l'Angleterre, deux low-costers qui pèsent pour l'Angleterre 40% du marché et pour l'Allemagne 50%. C'est ce qui fait que, et vous avez probablement acheté vos lunettes chez ce low-coster, en tout cas vous aviez pratiquement une chance sur deux de le faire, c'est ce qui explique que vous les ayez payées moins cher. Objectivement, le prix moyen d'une paire de lunettes est moins cher en Angleterre qu'en France. Ce ne sont pas le prix des produits qui sont inférieurs, c'est la dépense qui est moindre. Et la dépense est moindre parce que les remboursements sont moindres. Et les remboursements sont moindres parce que les Anglais consacrent 0 euro à la mutuelle susceptible de leur rembourser des lunettes ou des aides auditives.
Vous êtes un acteur de la santé. J'aimerais votre avis sur un événement qui est en train de se produire. Le gouvernement a lancé en début de semaine une période de consultation pour transformer le système de santé français. C'est ce qu'on appelle le Ségur de la santé. La France consacre déjà 11,2% de son PIB à la santé. C'est un des niveaux les plus élevés parmi les pays de l'OCDE. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'il n'y ait seulement des réaffectations de crédits et que votre secteur subisse un effet collatéral de cette réorganisation?
Écoutez, notre secteur a déjà subi les effets collatéraux. Vous parliez des remboursements tout à l'heure qui étaient, à vous entendre, généreux. Ils ont baissé de 46 euros sur l'année 2020. Par conséquent, nous avons déjà commencé de subir les effets collatéraux dans l'optique. Et dans l'audioprothèse, ça va être la même chose, puisque pour financer le 100% santé, les mutuelles ont ajusté leur niveau de remboursement.
Est-ce que la crise, selon vous, a davantage braqué le projecteur sur la santé, qui semble être devenue une des préoccupations principales des Français ?
Ben écoutez, ça me paraît évident. La France a connu une période dramatique avec les personnels de santé sur le front. Et les Français se sont rendus compte que finalement leur système avait une vertu par rapport à d'autres pays comme les États-Unis, c'est qu'il permettait d'être plus résilient quand il y avait une pandémie comme celle que l'on a connue. Il est donc tout à fait compréhensible que l'on réaffecte des budgets vers ce secteur. En ce qui nous concerne, nous ne demandons pas davantage de budget, puisque nous faisons partie aussi de la santé. Nous demandons simplement que les leçons qu'on a tirées de cette expérience du coronavirus, notamment en matière de télémédecine, soient utilisées et étendues dans les secteurs qui peuvent en bénéficier.
Vous seriez favorable en France, par exemple, vous mentionniez que c'était le cas en Grande-Bretagne, à la prescription dans les boutiques ?
Non, parce que les ophtalmologistes aujourd'hui ont un rôle essentiel dans notre système de santé et qu'une prescription médicale, même pour des lunettes, c'est une occasion de détecter telle ou telle pathologie. Et donc il y a un équilibre que je pense nous avons trouvé en France. Par contre, si nous développons la télémédecine en s'appuyant sur les ophtalmologistes, nous viendrons à bout des déserts médicaux.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Champion, PDG des Opticiens Chris. Merci d'avoir été en plateau avec nous. Dans un instant, on va parler du secteur des loisirs, secteur qui se prépare à la reprise de l'activité après 2 mois et demi de paralysie. On en parle juste après la pause.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité.
Après 2 mois et demi de paralysie, le secteur des loisirs prépare la reprise de son activité. Les parcs à thème, notamment, devraient rouvrir leurs portes dans les prochaines semaines, dans des conditions sanitaires qui restent encore à déterminer. Les visiteurs seront-ils au rendez-vous ? Les mesures sanitaires vont-elles peser sur la fréquentation ? On va en parler avec Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en plateau avec nous. Quelques mots tout d'abord sur votre entreprise. Vous êtes une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, numéro 1 mondial de la gestion des domaines skiables. Le groupe s'est diversifié progressivement. Depuis 2002, vous êtes désormais propriétaire du musée Grévin, de plusieurs parcs à thème, notamment Astérix, Walibi, et premier actionnaire du Futuroscope. Vous êtes désormais incontournable dans le secteur du tourisme et du loisir. Quel a été l'impact de la crise sanitaire ? Je sais que la saison de ski a été écourtée, oui. Donc d'un côté ça a affecté votre activité d'hiver, et de l'autre, les parcs à thème sont fermés.
Alors l'impact est évidemment fort. Nous avons perdu 20% environ de notre chiffre d'affaires de la saison des domaines skiables à date, nous avons perdu à peu près la même chose en montant en tout cas dans les parcs de loisirs, mais évidemment, nous allons perdre un peu plus, puisqu'il va falloir remonter maintenant la pente. On va en parler si on peut rouvrir rapidement. Alors, c'est, pour nous, ça a été assez difficile parce que nous étions sur une très bonne trajectoire. La saison d'hiver, une fois de plus, avait été bonne. Depuis des années, vous savez que nous engrangeons de très bons résultats sur le ski. Et sur les parcs, nous étions à une croissance à deux chiffres. Nous étions à plus de 15%, notamment sur Astérix, sur tous les grands parcs que vous avez cités, par un très grand succès qu'on a obtenu à Halloween, qu'on a obtenu à Noël. Donc on était sur une très bonne trajectoire. Et puis là, on s'est arrêté puisqu'on n'a plus pu exploiter nos parcs et nos sites.
L'impact a été important, mais malgré tout assez contenu si on regarde les chiffres. Vous avez publié un bénéfice semestriel en recul de 26%, 47,7 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires qui s'est tassé de 5,6%.
Vous avez raison, mais là, vous ne prenez que l'impact de deux semaines et demie. Moi, je vous ai donné les chiffres à date, mais on voit déjà l'impact d'environ 45-50 millions de chiffres d'affaires sur le seul premier semestre, puisque nous venons de publier nos chiffres du premier semestre. Mais là, maintenant, depuis le premier semestre, évidemment, on a eu plein pot l'effet de l'absence de vacances de Pâques sur nos deux métiers, et ainsi que les grands week-ends de mai, les grands ponts de mai.
Vous venez de publier donc vos résultats et vous avez annoncé que vous étiez confiant sur votre capacité à traverser cette crise du Covid.
Oui.
Confiant, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que nous allons être impactés, soyons clairs, hein, très sérieusement impactés. Nous allons avoir une baisse très très significative. Vous avez vu les chiffres sur notre chiffre d'affaires. Nous sommes confiants parce que nous pensons que nous allons pouvoir rebondir. Nous sommes confiants parce que si, comme on l'entend dire, comme on nous l'a un peu dit, les parcs peuvent ouvrir à partir de la mi-juin, en gros, et vous savez que c'est clairement ce qui a commencé à se passer, puisqu'il y a déjà des parcs zoologiques, un certain nombre de sites, d'aquariums, de petits parcs qui sont déjà ouverts. Ça nous permettra de remonter la pente, et progressivement, je pense que les choses se feront de manière progressive, en juin, puis juillet et août. Ce qui nous importait beaucoup, nous, c'est que pendant la période de vacances, nous puissions être ouverts. Alors après, avec quelle fréquentation, dans quelles conditions, je pense que vous aurez envie d'en parler.
On va discuter des parcs.
Et bonne nouvelle quand même, c'est pas la France, mais n'oublions pas que nous sommes un groupe qui est implanté en Europe. Le parc Walibi Holland, qui est un des grands parcs hollandais, est ouvert depuis lundi. Donc ça y est, c'est en marche. C'est en marche aussi en Autriche. Enfin, voilà.
Vous êtes confiant, mais aussi prudent, puisque vous avez réduit votre programme d'investissement pour 2020 de manière assez significative.
Non, pas tant que cela. Pas si significativement que cela. Nous avons reporté, nous n'avons abandonné aucun projet d'investissement. Je tiens à le dire parce que vous le savez, ce qui a fait le succès de notre stratégie dans les dernières années, au cours des dernières années, et donc la très belle croissance de notre chiffre d'affaires, c'est cette politique de haut niveau d'investissement, que je maintiendrai. On maintiendra dans la durée un haut niveau. Tout simplement, en effet, pour tenir compte de la crise, nous avons ajusté, donc nous avons reporté un nombre très limité de projets dans les domaines skiables, puisque c'est là qu'on pouvait encore le faire, puisque les investissements dans les parcs, bien entendu, ils ont été réalisés avant, c'est tout cela est très saisonnier, mais nous les referons et nous les réaliserons l'an prochain. En plus, plusieurs projets n'auraient pas pu de toute façon être réalisés parce que les autorisations ont pris beaucoup de retard du fait de la crise, il faut purger les recours, enfin il y a un certain nombre d'éléments qui fait que la faisabilité technique de ces projets ne peut pas. Mais nous maintiendrons un niveau d'investissement très significatif, c'est ce qui a fait le succès de notre stratégie.
La réouverture des parcs à thème, est-ce que la date se précise?
Oui, je pense que pour ce qui concerne la zone verte, hein, autant qu'encore une fois on puisse savoir, le Premier ministre va annoncer demain un certain nombre de choses, mais en zone verte, nous comptons pouvoir, fermement en tout cas, nous espérons pouvoir ouvrir le parc Walibi-Rhône-Alpes, le Futuroscope, hein, qui est un de nos vaisseaux amiraux, bien sûr, et très vite Astérix, puisque peut-être qu'Astérix passera rapidement en zone verte. Astérix est dans l'Oise, donc dans les Hauts-de-France.
Espérez ou vous savez, mais vous n'avez pas encore le droit de
communiquer. Vous savez, moi je suis prudent. Je pense que dans cette période, il faut être prudent. Il faut garder son sang-froid. On s'est bien concerté avec les pouvoirs publics. On a travaillé sur des mesures sanitaires, des protocoles sanitaires avec nos syndicats professionnels en concertation avec les pouvoirs publics. Nous attendons le feu vert des pouvoirs publics. Vous savez qu'une fois que le gouvernement aura pris sa position, eh bien, ce sera décliné par les préfets au niveau local pour tenir compte des spécificités locales, mais nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes pour la rouverture.
Est-ce que les conditions sanitaires de la réouverture ont été arrêtées de manière
précise ? Oui, elles ont été arrêtées, comme je vous le disais. Nous avons une charte sanitaire que nous avons préparée avec le SNELAC, notre syndicat professionnel, qui a été évidemment concertée avec les pouvoirs publics. Je pense d'ailleurs que les pouvoirs publics l'ont trouvée de bonne qualité. Et ensuite, nous la déclinons en fonction des particularités. Alors, c'est quoi, pour faire bref, ça ne va pas vous étonner, c'est que d'organiser la circulation, le marquage, d'avoir un peu partout un accès limité au gel, aux lingettes, aux serviettes, enfin à tout ce qui est possible. C'est recommandé, et dans certains cas, pour certaines attractions qui seront d'ailleurs adaptées si nécessaire, imposer le port du masque, pas toujours, en fonction là encore des spécificités locales. C'est par exemple pour la restauration, privilégier la vente à emporter, les plats à emporter, plutôt que la restauration assise, classique, bien évidemment. Donc toutes ces mesures, nous pensons qu'elles sont parfaitement réalisables. Nous avons, je vous rappelle, je veux insister là-dessus, en tant que gestionnaire de parcs de loisirs, comme d'ailleurs de Domaine Skiable, une très bonne expérience, une très bonne expertise de la gestion de flux importants de clients. C'est notre métier.
Est-ce que les mesures de distanciation vont limiter votre capacité d'accueil ?
Alors, elles vont les limiter, mais assez, au fond, pas de manière si significative que cela. Vous voyez, on faisait un calcul sur, disons, par rapport à... Alors, sans doute par rapport à une capacité maximum, mais par rapport à une fréquentation moyenne dans un grand parc comme Astérix, ça limitera 10-15%. Vous voyez, c'est pas... je vous dis pas par rapport à la fréquentation maximale, mais par rapport, par exemple, à la fréquentation qu'on escompte au mois de juillet, et surtout au mois d'août, hein, qui est une période de pointe, c'est plutôt 10-15%. Après, le sujet, c'est de savoir si les gens vont venir. C'est ça. Ça, c'est notre première et principale préoccupation.
Alors justement, cette année, le tourisme estival devrait être marqué par un tourisme national. Ça, pour vous, c'est une bonne nouvelle ?
C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, puisque nous, notre métier, c'est loisirs de proximité. Nos parcs, ce sont des zones de chalandise, une heure et demie. Alors,
c'est ce qui vous différencie, par exemple, de Disney ?
Un peu plus, oui, bien sûr. Astérix ou le Futuroscope, la clientèle étrangère est évidemment très minoritaire par rapport à la clientèle française. Nous sentons, mais là encore, prudence, hein, je crois que dans cette période, il faut être prudent, il ne faut pas être péremptoire. Nous sentons de l'envie, nous sentons de l'impatience, nous sentons, on le voit bien à nos sites, sur nos sites, là, les connexions commencent à se multiplier, à augmenter. Donc ce sont de bons signes. Mais prudence, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'on ne sait pas comment les gens réagiront par rapport à la sécurité sanitaire. Mais encore une fois, notre métier, c'est de divertir et d'amuser nos clients, de les faire rêver, de les faire un peu oublier, surtout en ce moment, les tracas du quotidien. Il est inconcevable qu'on accueille des clients si nous ne sommes pas raisonnablement sûrs qu'ils s'y trouveront en sécurité. Sinon, ils ne viendront pas, et si ce n'était pas le cas, ils nous feraient payer très cher tout manquement à cette obligation.
Vous allez développer une politique commerciale agressive, on va dire, pour attirer...
Non, nous maintiendrons notre politique tarifaire, parce que nous pensons que l'offre que nous allons présenter à nos clients sera une offre de grande qualité. Il y aura plutôt quand même moins de fréquentation. Et donc, ce sera, c'est ce que nous escomptons, donc ce sera plus facile, plus aisé. Et je pense que l'expérience de visite sera très bonne et plutôt
peut-être
meilleure
peut-être.
Que d'habitude.
D'accord.
Voilà, exactement. Donc, il n'y a aucune raison de le faire à ce stade.
Vous êtes fixé des objectifs pour cette saison estivale dans les parcs de loisirs en termes de fréquentation et donc de revenus.
Écoutez, c'est très difficile de vous fixer des objectifs parce qu'on est vraiment encore dans l'incertitude. C'est notre objectif, c'est au maximum de faire le maximum pour avoir une fréquentation presque normale au mois de juillet et au mois d'août. Hein, juin va certainement commencer de manière progressive. C'est surtout à partir du 15 juillet que le haut de la saison, 15 juillet, 25 août, et c'est là où on voudrait avoir... Alors, je ne vous dis pas que ça ressemblera forcément à la saison dernière, hein, qui avait été très bonne, comme beaucoup d'autres saisons derrière, mais on a une bonne trajectoire, on a de très beaux produits. Vous savez qu'à Astérix, nous avons une très belle offre hôtelière, nous avons un troisième hôtel, les Quais de Lutèce, qui est un hôtel vraiment magnifique, qu'on n'a pas pu inaugurer hélas à cause de la crise du Covid. Donc, on a de quoi, je pense, attirer les visiteurs. Et je pense qu'il y a un peu urgence. Hein. Il y a un peu urgence à reprendre l'activité, enfin, de manière plus générale. Hein. C'est, aujourd'hui, la reprise, c'est absolument essentiel.
Cela dit, vous n'êtes pas dans le déni. J'ai lu que vous anticipiez une reprise lente et progressive.
Lente, peut-être... je dirais progressive. Encore une fois, c'est très difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'expriment, vous savez, sur le monde d'après, le jour d'après, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jours prochains, les prochaines semaines et les prochains mois. Et il faut qu'on soit réaliste. On garde du sang-froid, de la sérénité. S'il faut, c'est tenir la barre dans ces circonstances. Et je pense que de la qualité de la reprise, de la rapidité avec laquelle l'économie française, au-delà de notre sujet, de nos métiers, bien sûr, qui m'importent au plus haut point, cette qualité-là, si on a une reprise plus rapide, si on a une reprise de qualité, eh ben, ensuite, ça nous arrangera bien pour les jours d'après.
Alors, le monde d'après, justement, Edwige Chevrillon, que je remplace cette semaine, a l'habitude de demander à ses invités comment est-ce qu'ils voient le monde d'après.
Mais écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas encore très bien comment je le vois. En tout cas, on a quelques... Moi, ma perception, c'est que le monde d'après, ça va ressembler un peu à celui d'avant, mais c'est-à-dire que nous avions des évolutions qui étaient très perceptibles dans notre secteur du tourisme et des loisirs. Des évolutions pour un loisir de plus de proximité, du tourisme moins dense, décongestionné, du tourisme plus accessible, et accessible à la fois dans l'espace, mais aussi accessible au plus grand nombre. Ces évolutions-là, ma conviction, c'est qu'elles vont s'amplifier. La crise va amplifier ces évolutions, mais le jour d'après, ce ne sera pas le grand soir.
Le monde d'après sera marqué peut-être par des préoccupations plus écolo. C'est ce qu'ont laissé entendre plusieurs entreprises du CAC 40. Le réchauffement climatique, est-ce que ça vous inquiète? Le ski, c'est un des piliers de votre activité.
Bien sûr. Bien sûr.
Le manque de neige.
Alors, que ça nous inquiète, évidemment, ça nous concerne au plus haut point. C'est vrai que parfois, notre profession a été un petit peu dans le déni sur ces questions et qu'on n'a peut-être pas pris collectivement assez à bras-le-corps ces sujets. Nous sommes, en effet, nous, à la Compagnie des Alpes, assez bien, mieux protégés parce que nous avons des stations de haute altitude qui restent encore très bien enneigées et on a peu de doute que nous pourrons encore opérer nos domaines pendant pas mal d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné. En effet, c'est un sujet absolument majeur. C'est un sujet qui doit influencer nos investissements, la pondération de nos investissements, plus de neige de culture, plus d'aménagement de pistes pour tenir compte de toutes ces évolutions. C'est un sujet majeur pour nous.
Et le ski, en cas de deuxième vague de l'épidémie, quand on pense ski, on pense grand air, mais on est aussi confiné dans les remontées mécaniques. Pour vous, ce serait un scénario extrêmement négatif.
Bien sûr. Enfin, la saison ouvre en décembre. Essayons quand même d'être optimistes. Je pense que le ski et la montagne ont de véritables atouts dans le contexte. Quand vous parlez du monde d'après, la montagne l'été, c'est-à-dire de grands espaces avec faible densité, de très beaux paysages, de la fraîcheur de température, enfin tout cela, ce sont des atouts. Et la montagne l'été va, et notamment cette année, je pense qu'il y a...
Alors qu'il s'annonce chaud apparemment d'après les prévisionnistes.
Oui, il fera moins chaud en montagne.
Justement, vous tablez sur une augmentation de la fréquentation en montagne.
Alors, sur le ski, vous savez que le ski c'est assez marginal.
Non, le ski d'été, oui, mais la randonnée.
Mais nous participons à l'hébergement, comme vous savez, nous avons des agences immobilières, nous sommes le premier tour opérateur de la montagne, donc par toutes nos activités, et nous sentons, je pense qu'en tout cas nous sommes mobilisés avec toutes les parties prenantes de la montagne pour faire en sorte que cette année la montagne soit un vrai succès. Je pense qu'il y a toutes les raisons, après cette crise de la Covid, que ce soit le cas.
J'aimerais votre regard de chef d'entreprise sur la crise justement du Covid. Vous avez déclaré au Dauphiné Libéré qu'on a peut-être péché par excès de prudence. Vous appelez à ne pas surréagir.
Non, je sais plus ce que j'ai dit.
Vous appelez à ne pas surréagir.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut, je disais peut-être à ne pas surréagir sur les conséquences, si vous voulez. Bon, la crise nous a tous pris complètement, soudainement. Personne ne l'avait prévu. Et je pense qu'il faut quand même bien avoir ça en tête. Pour tous ceux qui prévoient beaucoup de choses pour après, aucun n'avait prévu ce qui s'est passé aujourd'hui au présent. Donc soyons modestes. Je pense simplement que maintenant, je pense que les pouvoirs publics, d'ailleurs, l'ont parfaitement compris. Il faut quand même prendre des décisions qui libèrent un peu l'économie. Et je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Et je pense qu'on est en train de le trouver.
La gestion de la crise par le gouvernement, est-ce que les mesures d'accompagnement des entreprises qui ont été mises en place
sont suffisantes ? Écoutez, le plan tourisme, je l'ai dit, je l'ai salué. C'est un plan significatif, avec multifacettes, les problèmes sanitaires, bien sûr, la trésorerie... les bilans, et vous savez notamment l'action sur les fonds propres et les prêts de long terme menés par la Caisse des dépôts, qui va jouer un rôle central dans le plan de relance, hein, comme vous le savez, donc dans notre groupe. Donc c'est un plan très significatif, et nous nous en réjouissons, nous nous en félicitons. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est que pour maintenir les entreprises à flot, c'est et éviter des plans de ce type, il faut repartir et repartir très vite.
Vous avez eu recours aux mesures de soutien du gouvernement?
Mais nous avons eu, comme tout le monde, évidemment.
Le prêt garanti par l'État, les mesures de chômage partiel?
Non, nous avons recours au chômage partiel.
Oui.
Parce que ça, de manière, nous avons eu jusqu'à plus de 4000 salariés en chômage partiel au pic de la crise, en avril, sur nos deux métiers, enfin, notamment sur le métier des domaines skiables. Nous avons encore beaucoup d'effectifs en chômage partiel, puisque nous n'avons pas d'activité. Nous sommes à l'arrêt. Et pour le reste, pour l'instant, nous n'avons pas encore eu recours à d'autres dispositifs.
À quel rythme est-ce que le gouvernement doit débrancher la prise, entre guillemets? Comment est-ce qu'on va enlever progressivement ces aides aux entreprises? Beaucoup de secteurs ont appelé à la modération.
Oui, alors je pense qu'il faut le faire progressivement. Sur le tourisme, aussi un des éléments importants du plan, c'est qu'un certain nombre de dispositions spécifiques très positives pour nous sont prolongées, comme vous le savez, jusqu'à la fin septembre. Donc notamment le chômage partiel. On a un dispositif, le dispositif spécifique reste pour le secteur du tourisme, pour les entreprises du tourisme, reste valable. Donc c'est une très bonne chose. Pour le reste, évidemment, il va falloir le faire progressivement, mais il faut aussi tenir compte du fait que ce dispositif coûte quand même très cher aux finances publiques, donc il faut être responsable, et il faut trouver le bon équilibre, et je pense qu'on le trouvera. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, il y a quand même la reprise de l'économie, bien sûr, il faut le faire ça, encore une fois, progressivement, mais il y a aussi les contraintes de financement. Il n'y a pas de miracle, hein, l'argent ne vient pas comme ça du ciel.
Certains secteurs ont été plus impactés que d'autres.
Oui, bien sûr,
la crise, l'aérien, bien sûr.
Un des premiers, le transport, enfin, et puis tout le commerce, enfin, les commerces, les petits commerçants, évidemment les restaurateurs, les hôteliers sont très impactés, surtout eux qui doivent réaliser pour certains leur saison sur 3, 4, 5 mois. Donc ceux-là, s'ils perdent, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'ils puissent faire une bonne saison estivale, parce que sinon, ils risquent de ne pas s'en remettre.
Ouais. L'objectif du gouvernement, c'était d'éviter la faillite. On voit bien que cet objectif va être difficile à tenir. Hein. Beaucoup de groupes ont annoncé leur dépôt de bilan. Est-ce que vous avez prévu à la Compagnie des Alpes de réduire vos effectifs?
À ce stade, non. Nous avons fait appel à l'activité partielle, mais si les choses reprennent normalement, encore une fois, vu la qualité de nos fondamentaux, je pense le bien fondé de notre stratégie, ce qui nous fait beaucoup de bien, ce qui nous permet de mieux résister, qui va nous permettre de mieux résister, tout le travail qu'on a fait au cours de ces dernières années, ça devrait nous permettre, si l'activité reprend, après on verra, je veux dire, évidemment, hein, si on a une deuxième crise, ce sera une autre histoire.
Dans l'état actuel des prévisions, on aura cette année un recul de l'économie extrêmement marqué en Europe. Des personnes vont se retrouver au chômage. Les économistes sont unanimes sur ces prévisions assez négatives. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'impact de ce recul économique sur votre activité? Les Français, forcément, auront moins d'argent à dépenser dans le secteur des loisirs.
Bien sûr, ils auront probablement moins d'argent à dépenser. Bon, il y a quand même aussi une épargne pour certains qui pourra peut-être se débloquer. Je pense que dans la période actuelle, en même temps, le loisir et le tourisme, il va peut-être y avoir des choix à faire. Vous savez, moi je me souviens qu'après la crise financière, qui était peut-être pas de la même ampleur, mais qui était quand même d'assez grande ampleur, on avait eu, plutôt, ça avait été suivi par de bonnes saisons, notamment sur les parts de loisir. Vous voyez, le loisir, je pense que dans la période de crise qu'on a vécue, les gens ont besoin un peu d'oublier, de se divertir, de se ressourcer. Je pense que ça restera quand même un moyen privilégié pour les Français. Après, bien évidemment, il y a des incertitudes et bien évidemment, la crise atteindra toutes les entreprises et tous les secteurs.
Alors, on va terminer justement sur cette note positive. Le pire n'est jamais certain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'on peut avoir une bonne surprise et que la reprise économique, finalement, pourrait être beaucoup plus vigoureuse que ce qu'on anticipe?
Très difficile de vous répondre. Moi, je ne suis pas devin, très difficile de vous répondre. La question se pose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous. Comment les gens vont réagir? On sent de l'impatience, on sent de l'envie. Donc peut-être qu'on va faire une saison d'été qui sera bonne, voire très bonne. Mais c'est très difficile encore aujourd'hui de le dire. Je crois que je préfère, vous voyez, dans ces périodes-là, je préfère être modeste.
Mais vous opérez dans d'autres pays. Comment
oui.
se passe la reprise?
C'est encore difficile parce qu'on vient d'ouvrir la Hollande, on va ouvrir l'Autriche. Encore difficile de s'en rendre compte. Ces pays ont repris plus vite que nous.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Probablement, se sont moins arrêtés que nous. Après, les raisons, on pourrait en disserter longtemps.
Merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui. Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes. On rappelle vos résultats. Un bénéfice semestriel en recul de 26%, 47,7 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 5,6%. Vous opérez dans les stations de ski, mais aussi dans les parcs de loisirs, notamment Astérix, Walibi et bien sûr le Futuroscope. On se retrouve demain à partir de midi pour une nouvelle Heure H. Très bonne journée sur BFM Business.